Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec en direct de Washington, 18h30, temps universel, ravi d'être avec vous. Le Monde Aujourd'hui, édition du lundi 18 septembre 2017. Au sommaire ce soir, Assemblée Générale de l'ONU à New York, Donald Trump présente son projet de réforme à l'organisation. Triple attentat suicide dans le nord-est du Nigeria, bilan au moins 15 morts. Retour au calme à Kamanyola après les heurts de vendredi qui ont coûté la vie à 37 réfugiés burundais et un officier congolais.
La population de Kamanyola qui avait accueilli ces réfugiés continue toujours à les assister, à les apporter à manger, à boire.
Nous aurons bien sûr les sports et la Minute Éco, mais d'abord le journal. République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila est arrivé dans la région du Kasaï en proie à des violences depuis un an. Il doit participer demain à un forum pour la paix à Kananga, la principale ville du Kasaï, mais le forum est déjà décrié par l'opposition. Le Premier ministre Bruno Tshibala se trouve également à Kananga. Sans la paix, on ne peut pas parler développement, a-t-il déclaré. Cette rencontre est un mini-congrès du PPRD, Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie au pouvoir, a déclaré de son côté à l'AFP le député d'opposition Claudel Loubaya, affirmant avoir décliné une invitation à ce rendez-vous. Elie Mpoutou, un porte-parole du rassemblement de l'opposition au Kasaï, a pour sa part exigé la présence du gouverneur du Kasaï central, Alex Kandé, à ses assises. Et nous restons en RDC. Des cours ont été perturbés dans plusieurs écoles de Kinshasa. Un groupe de personnes non identifiées s'en est pris aux enseignants. Le mouvement s'est répandu comme une traînée de poudre. Gino Reima de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Des élèves en dehors de la grille, des élèves dans la cour, quelques-uns dans des salles de classe, pas des cours, c'est les bruits et les désordres total. À l'entrée principale de l'école, les parents se bousculent pour récupérer leurs enfants.
Vous êtes venu chercher l'enfant, pourquoi?
Parce qu'il y a des ordres partout, dans les écoles qui ont libéré les élèves déjà, et puis nous sommes venus ici pour récupérer nos enfants.
À la porte, un des responsables de l'école s'interpose, c'est la situation à l'école Sévigné.
Nous avons la sécurité ici. Il y a un parent, j'étais très fâché, mais je l'ai respecté. J'ai venu pousser la porte.
Alors qu'ils étaient en plein cours, les élèves, professeurs et responsables de l'école ont entendu quelques coups de feu, ce qui a causé la peur.
Pourquoi tu es dehors?
Parce qu'il y a eu des troubles.
Mais quels troubles?
Et on a juste entendu des coups de feu et ils s'approchent au fait.
Les élèves finalistes se plaignent de cette situation.
Donc ça va pas, et vu que je suis en sixième, je me demande est-ce que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de l'année où on va s'en sortir avec le temps. Donc c'est un peu compliqué.
Et qui vous a libéré?
En fait, le préfet, il a refusé de nous faire sortir. Donc on est sorti par force. On a forcé la porte.
Plusieurs écoles de la partie est de la ville Kinshasa ont été visitées l'avant-midi de ce lundi par des étudiants chassant ainsi les élèves de leur salle de classe. Kinshasa, Gino Reima pour VO Afrique.
Affrontement entre policiers et étudiants à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les forces de l'ordre ont lancé des gaz lacrymogènes et utilisé des jets d'eau pour disperser les protestataires qui ont mis en place des barrages, jeté des pierres et autres projectiles ou tiré des lance-pierres. Les étudiants s'insurgent contre une hausse abusive des frais d'inscription pour la rentrée. Les cotisations s'élèvent à 20 000 francs CFA en plus des 6 000 francs CFA normalement perçus pour les droits d'inscription. C'est ce qu'expliquent des organisations estudiantines. En Côte d'Ivoire toujours, un incendie la nuit passée a ravagé le grand marché d'Abobo, un quartier populaire d'Abidjan. Aucun blessé signalé, mais la police fait état d'énormes dégâts matériels. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de l'incendie. Les pompiers ont mis plusieurs heures pour circonscrire les flammes qui ont détruit une grande partie des bâtiments. Et les riverains ont également participé aux opérations avec des seaux d'eau. Togo, le vice-président du parti présidentiel confirme que les membres de l'UNIR sont invités à descendre dans la rue mercredi et jeudi, jour où des manifestations de l'opposition sont également prévues. Il n'y a toutefois pas de communiqué officiel. Ces marches favorables au pouvoir visent à soutenir le projet de loi constitutionnelle du gouvernement et dire non à la violence. L'opposition, elle, avait choisi ces mêmes dates candidatent pour demander la révision de la Constitution, notamment une limitation du nombre des mandats présidentiels qui s'appliquerait de manière rétroactive, empêchant le président Faure Gnassingbé de se représenter au scrutin de 2020. Un triple attentat suicide a fait au moins 15 morts aujourd'hui lors d'une distribution alimentaire dans un camp de déplacés du nord-est du Nigeria. Anastasie Tudiech.
Selon un employé d'une organisation humanitaire, les trois kamikazes étaient des femmes. Deux premières explosions ont fait 15 morts et 43 blessés. Une troisième kamikaze s'est faite exploser quelques minutes plus tard à proximité sans faire de victimes. Les attentats ont eu lieu dans le village de Machalari, à une vingtaine de kilomètres de Maïdougouri, la capitale du Borno, une zone qui a été la cible de nombreuses attaques de Boko Haram depuis début août. Mi-août, un triple attentat suicide, également perpétré par des femmes kamikazes, avait fait 28 morts et plus de 80 blessés dans la même zone, également à la sortie d'un camp de déplacés. Ces dernières semaines, le district de Kunduga, où se situe le village de Malachari, a connu de nombreuses attaques sporadiques visant des agriculteurs ou des villageois accusés par le groupe terroriste d'être des informateurs pour l'armée nigériane.
Nigeria toujours, au moins 44 personnes ont succombé au choléra dans le nord-est du pays, dévasté justement par le conflit de Boko Haram. C'est ce qu'annoncent les Nations Unies qui lancent un appel de fonds de 10 millions de dollars pour enrayer une éventuelle épidémie dans les camps de déplacés. Conflit libyen, l'homme fort de l'Est, le maréchal Khalifa Haftar, était en visite à Tunis aujourd'hui. Il a été reçu par le président Béji Kaïd Essebsi, qui s'est dit prêt à œuvrer à la réconciliation entre parties rivales. La stabilité de la Libye est une condition nécessaire pour la stabilité de la Tunisie, a affirmé M. Essebsi, appelant les deux camps à œuvrer pour la construction d'un État.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La ville américaine de Saint-Louis restait aujourd'hui sous tension avec l'acquittement d'un policier blanc dans la mort d'un homme noir. Verdict qui a provoqué des manifestations et des violences conduisant à l'annulation de deux concerts ce week-end. Salwa Jafari.
Pendant la nuit, des vitrines de nombreux magasins ont été détruites à l'issue d'une manifestation qui s'était déroulée dans le calme. Au moins 80 personnes ont été arrêtées. Dans une ville à cran, des centaines de policiers assurent l'ordre depuis vendredi. Plusieurs ont été blessés dans des confrontations. Ce matin, les manifestants sont redescendus en force dans les rues de Saint-Louis. Ils dénoncent un racisme institutionnel et menacent de mener des actions de blocage et des rassemblements pendant plusieurs jours pour protester contre le verdict d'acquittement du policier rendu vendredi. L'affaire est suivie au niveau national car elle est vue à travers le prisme des relations entre la police et la communauté noire. Et après plusieurs grandes affaires de noirs tués dans des circonstances troubles par des policiers blancs, l'ancien policier Jason Stockley est blanc à l'issue d'une course-poursuite en 2011 avec un trafiquant de drogue noir, Anthony Lamar Smith. Il a tiré et tué l'homme dans sa voiture. Les diverses vidéos de la scène en donnent une image incomplète, mais le policier a notamment été accusé d'avoir déposé une arme de poing dans la voiture pour justifier son acte.
Les États-Unis envisagent une possible fermeture de leur ambassade à Cuba après de mystérieuses attaques acoustiques qui ont touché leurs employés. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
L'annonce a été faite sur la chaîne de télévision CBS par le secrétaire d'État américain aux affaires étrangères, Rex Tillerson. Il a déclaré que c'est un sujet très sérieux, eu égard au mal dont ont souffert certains diplomates, ajoutant que les États-Unis ont rapatrié certains d'entre eux. Selon la télévision canadienne CBC, au moins 5 diplomates canadiens et leurs familles ont également été victimes de ces attaques acoustiques. Le dernier bilan du département d'État fait cas d'au moins 21 salariés ayant ressenti des pertes d'audition et d'équilibre, migraines et nausées selon les cas. Le même constat a été fait par le syndicat des diplomates américains. Les États-Unis se sont plaints auprès de Cuba et ont même expulsé deux diplomates cubains en mai dernier. Washington n'a pas officiellement accusé la Havane, mais a rappelé que les Cubains sont garants de la sécurité de ses diplomates. Plusieurs élus du Congrès ont appelé l'administration Trump à fermer l'ambassade. La porte-parole du département d'État, Heather Nauert, a martelé que l'enquête se poursuivra jusqu'à ce que l'on trouve la raison ou le responsable. Cuba a nié toute implication dans cette affaire. L'ambassade américaine à La Havane a été rouverte en 2015 après un demi-siècle de rupture de relations diplomatiques entre les deux pays.
États-Unis toujours, les proches de l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, Michael Flynn, lancent un appel aux dons. Ils espèrent ainsi faire face aux coûts croissants de défense dans l'enquête sur des accusations d'ingérence de la Russie dans la campagne présidentielle 2016. Michael Flynn, au centre des soupçons dans cette affaire, avait conseillé Donald Trump pendant la campagne présidentielle avant d'être démis de ses fonctions quelques semaines seulement après l'installation de la nouvelle administration. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Allez, on enchaîne sur l'actualité économique en Afrique. C'est la Minute Éco avec Dili Diko.
En Guinée équatoriale, l'Alliance globale pour les vaccins et l'immunisation, Gavi, a annoncé ne pas être en mesure d'aider le pays dans son plan de vaccination en raison du PIB élevé par habitant de la Guinée équatoriale. L'AFP rapporte que Thierry Vincent, représentant de cette organisation suisse, a déclaré jeudi dernier, lors d'une réunion à Malabo, que seuls les pays dont le revenu par habitant est inférieur à 1 580 $ peuvent être soutenus par le Gavi. Or, la Guinée équatoriale a l'un des PIB par habitant les plus élevés d'Afrique, avec 8 300 $ par tête en 2016, selon la Banque mondiale. Au Cameroun, le trésor public repart sur le marché des titres de la Banque des États de l'Afrique centrale pour lever 5 milliards de francs CFA, selon l'agence Ecofin. L'opération est prévue le 20 septembre 2017. Les titres émis seront des bons du trésor d'une maturité de 26 semaines. Le Cameroun est l'un des principaux animateurs du marché des titres publics de la BEAC. Il est suivi du Gabon et du Tchad. Depuis sa création en 2011, à la fin 2016, ce marché a permis de lever plus de 4 000 milliards de francs CFA. Au Bénin, la BOAD, la Banque Ouest-Africaine de Développement, s'apprête à financer un projet hôtelier à hauteur de 7,4 milliards de francs CFA, rapporte Ecofin. Le coût global de cette réalisation est estimé à 50 milliards de francs CFA. Il servira à la construction et à l'exploitation du Marriott Hotel and Resorts, un complexe hôtelier 5 étoiles à Cotonou.
Un peu sur les stades, les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Football avec le tournoi de l'UFOA. Aujourd'hui, place à la troisième et dernière journée des matchs de poule.
Dans le groupe A, le Nigeria est condamné à une victoire face aux pays hôtes. Le Ghana, déjà qualifié après deux victoires. L'autre rencontre met aux prises la Guinée et le Mali. Les deux pays toujours en course pour une qualification en demi-finale. Hier dans la poule B, pour le compte de la deuxième journée, le Sénégal s'est relancé suite à sa victoire 4-0 face au Bénin. Le Niger garde la première place du groupe après son nul contre la Côte d'Ivoire 0-0. La dernière journée prévue demain promet donc dans ce groupe B.
Incident à Alger en marge des quarts de finale de la Coupe CAF.
Et oui, plusieurs dizaines de supporters du club africain ont été arrêtés à Alger suite aux incidents survenus lors de la rencontre de Coupe de la Confédération face au Mouloudia Club d'Alger. La Confédération africaine de football devrait infliger une amende au club du président Slim Riahi. On parle d'au moins 10 000 $.
Mazembe a déjà un pied en demi-finale de cette Coupe CAF.
Et oui, les corbeaux de Mazembe ont obtenu une victoire 2-1 au Soudan face à Al Hilal Obied. Écoutez Pamphile Miayo, l'entraîneur de Mazembe.
Nous respectons vraiment l'équipe de Hilal. C'est une très grande équipe et nous l'avons vécu sur le terrain. Ils n'ont pas lâché jusqu'à la dernière minute parce que rien n'est encore fait. Ce n'est qu'un match aller. Il reste encore un match retour à jouer pour pouvoir chercher la qualification.
Ousmane Dembélé opéra demain en Finlande.
L'ailier de Barcelone, le joueur le plus cher de l'histoire du championnat d'Espagne, sera opéré demain à Helsinki de sa rupture du tendon du biceps de la cuisse gauche. Samedi, on s'en souvient, il avait dû sortir après 25 minutes de jeu lors du match contre Getafe. Il devrait être absent entre 3 et 4 mois. C'est un coup dur pour Barcelone qui avait dépensé presque 150 millions d'euros pour pouvoir acquérir le joueur de Dortmund.
De retour avec vous, Morgane Guiriec, deuxième partie d'émission, les dossiers du jour. Et nous ouvrons sur l'Assemblée générale des Nations unies qui se tient cette semaine à New York, la crise en République démocratique du Congo, la Centrafrique, la sécurité au Sahel et le climat tendu au Kenya à la veille du nouveau scrutin présidentiel comptent parmi les grands dossiers africains au programme pour cette 72e session. Également à l'agenda, le débat sur la réforme de l'ONU. Pour en savoir plus, Jacques Aristide s'est entretenu avec Jean-Victor Collo du bureau du conseiller spécial pour l'Afrique.
L'essentiel du travail du Conseil de sécurité et des agences des Nations Unies, de l'organisation générale, porte essentiellement sur le continent africain, entre 70-75%, voire plus, et bien la réforme des Nations Unies, qui est tant discutée ici, va donc bénéficier davantage à l'Afrique qu'à tout autre continent. Donc il y a ce dossier-là qui est important, mais il y a aussi d'autres questions de l'heure. Il y a le Sahel, il y a la question très importante du Kenya qui sera d'actualité, puisque la date pour la reprise des élections va tomber en plein débat général de l'Assemblée générale. Il y a aussi la question du maintien de la paix, du Congo, par exemple, et de d'autres questions importantes. Il y a, en fond de tout cela, le besoin de mieux lutter ou même de prévenir la montée des extrémismes violents et du terrorisme sur le continent africain.
Chaque année, ce sont pratiquement les mêmes crises et conflits, de même que cette question de sécurité qui reviennent sur le tapis. À quoi doit-on s'attendre lors de l'actuelle Assemblée générale ?
Je pense que le secrétaire général a été très précis dans sa vision, qui est remarquable et qui a une portée assez large, qui est celle de prévenir dans un premier temps les conflits avant que ceux-ci n'éclatent. Je pense que l'Afrique bénéficiera largement de cette vision. La question de la prévention est véritablement importante. Et si on reprend par exemple le cas du Kenya, en faisant bien les choses, on peut prévenir une situation qui pourrait se dégrader très rapidement si les choses tournent mal. Alors ce à quoi on peut s'attendre en réalité, c'est aussi qu'avec la question de la réforme et avec la question des budgets, peut-être que la question du maintien de la paix devra passer à travers les fourches caudines d'un certain nombre de réductions, de mieux faire les choses, mais aussi de mieux protéger les populations pour lesquelles les casques bleus de l'ONU sont souvent déployés ici et là. Il y a la question très importante du changement climatique, mais comme l'a souligné la vice-secrétaire générale, la numéro 2 des Nations Unies, qui est africaine, Madame Amina Mohamed, il y a aussi la question très importante du financement de l'agenda 2030, le financement du développement et du rôle des Nations Unies. Parce que quand on parle développement, quand on parle économie durable, quand on parle changement climatique, eh bien il n'y a pas que des mots, il faut aussi des fonds, parce que tout cela se finance. Il faut donc rappeler à la communauté internationale ses engagements, il faut rappeler le plan d'action d'Addis Abeba qui a été approuvé par tous, et il faut comprendre que aussi bien le développement que la paix se financent et se financent parfois lourdement.
Jean-Victor Collo, du bureau du conseiller spécial pour l'Afrique auprès du secrétaire général de l'ONU.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
En République démocratique du Congo, le calme est revenu à Kamanyola, dans la province du Sud Kivu, où des heurts entre les forces de sécurité et des ressortissants burundais ont coûté la vie à 37 Burundais et un officier congolais. En attendant que la lumière soit faite sur ces incidents, les Burundais de Kamanyola ont été regroupés dans un camp de transit. Timothée Donangmaï a joint sur place notre confrère pacifique Luaboshi.
Le message actuellement qui circule, c'est d'abord l'apaisement du côté de l'administration et la population de Kamanyola qui avait accueilli ces réfugiés continue toujours à les assister, à les apporter à manger, à boire. Mais cela ne suffit pas parce que la situation humanitaire est précaire ici dans les camps de transit où ces réfugiés se sont déplacés après les affrontements. C'est devant le bureau de la MONUSCO ici chez nous à Kamagnola. Donc l'aide que la MONUSCO a prévue pour ces réfugiés est insuffisante. Les réfugiés demandent le retour au quartier, ce qui n'est pas aujourd'hui autorisé par les autorités parce que il y a plusieurs enquêtes qui sont diligentées aujourd'hui par la communauté internationale. Il y a aussi la descente sur terrain de plusieurs autorités territoriales, provinciales et nationales. Le ministre de l'Intérieur au niveau de la province était ici. On attendait l'arrivée du ministre national de l'Intérieur et aussi l'arrivée du représentant du secrétaire des Nations Unies en République démocratique du Congo.
Comment les Burundais réagissent-ils aux incidents de vendredi dernier, étant donné que cela apparemment a commencé par la mort d'un militaire tué par ses ressortissants?
Selon ce que nous avions pu rencontrer, ils reconnaissent qu'ils utilisaient des pierres pour essayer de se défendre, mais les informations parlent vraiment et confirment que il y a eu un Burundais parmi ces jeunes qui étaient en bagarre avec les forces de l'ordre, qui avait ravi l'arme du militaire et l'a fait retourner des balles à ce militaire qui a succombé à ses blessures sur les champs. C'est ce qui a poussé même certains jeunes Congolais, en compassion ou je dis en solidarité à leurs forces de l'ordre, à commencer aussi à attaquer les Burundais au moment même des bagarres. Et cela a été calmé quand même ces forces de l'ordre, le matin et le samedi, commençaient à protéger ces mêmes réfugiés qui étaient avec eux dans les bagarres. Cela a été un signe qui montrait à la jeunesse que les forces de l'ordre n'ont pas de conscience. On voyait un militaire passer sur la moto avec un Burundais qui avait oublié ses biens au quartier. Il l'accompagnait jusque dans la maison pour prendre ses biens et retourner dans ses petits cas de transit devant le bureau de la MONUSCO. Et on voyait même des policiers qui aussi transféraient le blessé à l'hôpital. On voyait même des militaires qui accompagnaient ces blessés à l'hôpital parce qu'ils savaient que la communauté était déjà frustrée.
Pacifique Luaboshi, journaliste joint à Kamagnola, dans le sud Kivu.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Bukavu sur 97.4 FM.
Le gouvernement guinéen a déploré les violences qui ont secoué la ville minière de Boké, au nord-ouest de Conakry. Deux personnes ont trouvé la mort lors de ces manifestations qui ont également fait de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels. Pour analyse, Yacouba Ouedraogo a joint Abdoulaye Keïta, journaliste à Radio Espace Kakandé à Boké.
Présentement, tout est rentré carrément au calme parce qu'il y a eu un certain nombre de points répondus ou résolus par l'État ou à travers une entreprise minière. On se rappelle au mois d'avril dernier, les jeunes avaient manifesté pour réclamer l'eau, l'électricité, l'emploi jeune, la rétrocession de 0,5% du chiffre d'affaires des sociétés minières qui évoluent comme l'exige de code minier. Le commerce avait été pris par le gouvernement. Ce qui a fait déborder la goutte dans le vase, c'est bien entendu le fait que le ministre de l'Énergie, Cheikh Tali Bissila, avait promis à Boké la possibilité d'avoir 4 nouveaux groupes électrogènes qui étaient déjà présents selon lui à Conakry. Malheureusement, depuis avril, 9 juillet, donc près de 5-6 mois après, ces groupes ne sont jamais arrivés à Boké, d'où la colère, et parce que cela a coïncidé notamment à une interruption du courant électrique dans Boké pendant au moins 10 jours.
Quel bilan faites-vous de ces manifestations-là?
Il y a la compagnie de la gendarmerie qui a été totalement saccagée. Il y avait au moins 3 véhicules particuliers, notamment un véhicule privé et 2 autres, n'est-ce pas, qui appartiennent à des armes qui ont été saccagées. Il y a aussi la gendarmerie mobile qui a été totalement saccagée. Des armes, tenez-vous bien, ont été emportées. J'ai le témoignage, je les ai vues personnellement avec les jeunes manifestants, malheureusement. Le siège du RPG Arc-en-Ciel qui avait été à cette époque-là très délégué qui a été saccagé. Et le coordinateur du RPG Arc-en-Ciel, M. Cinema Gassouba, qui se trouvait être le directeur préfectoral de l'éducation, son domicile privé, a été saccagé très loin de la ville. Une forme d'expression de l'acharnement de la population contre un régime qu'ils estiment les a menti. 2 morts réellement et 63 blessés, dont 15 au moins par balle.
Le gouvernement a entrepris un certain nombre de mesures. Il a limogé le préfet sur place.
Le préfet, effectivement, a été limogé comme d'ailleurs le scandale de la population, le départ du gouverneur et du préfet. Mais ce qui est un peu paradoxal, c'est que le préfet n'est pas une autorité en Guinée qui puisse donner de l'eau, qui puisse donner de l'électricité. Le problème, il est au niveau étatique. Beaucoup s'estiment, depuis que le décret est passé à l'antenne, que l'État a peut-être voulu faire porter le chapeau à cette violence par le préfet. Par contre, je rappelle que le préfet avait, au mois de janvier dernier, rappelé devant le président de la République, dit, je cite, « Monsieur le Président, prenez vos responsabilités, aidez-nous à Boké, parce que les entreprises ne répondent pas forcément aux besoins de la population. Donc, si vous ne faites pas quelque chose dans les jours à venir, Boké pourrait être, n'est-ce pas, soumis à une espèce de violence, et c'est ce qui est arrivé.
Le gouvernement a fait parvenir des groupes électrogènes. Quelle est la suite?
La société United Mine and Supply, pour préserver ses actions dans Boké, a amené trois groupes qui a donc contribué substantiellement à appuyer la communauté énergétique à Boké, ce n'est pas le gouvernement. L'arrivée de ces trois groupes pourront peut-être à terme aider à la fourniture de l'énergie, mais ne pourront pas résoudre le besoin réel de la population de Boké, qui espère et qui exige d'ailleurs que le courant passe 24 heures sur 24.
Abdoulaye Keïta, journaliste à Boké.
Depuis 7 heures du matin, une des équipes de l'association Abaz est sur le terrain dans un foyer moyen. Ils ont une latrine à curer.
Voilà qui vous donne un avant-goût de ce qui va suivre. Au Burkina Faso, la saison des pluies complique l'assainissement des zones habitées. Caniveaux bouchés, curage sauvage des latrines. Beaucoup d'efforts doivent être déployés par les autorités et les citoyens pour améliorer les conditions de vie. L'association des vidangeurs manuels Abaz prend les devants. Comme nous l'explique Issa Napon, notre correspondant à Ouagadougou.
Depuis 7 heures du matin, une des équipes de l'association Abaz est sur le terrain dans un foyer moyen. Ils ont une latrine à curer, leur quotidien. En maître d'œuvre, le président de l'association des cureurs manuels de la capitale et responsable de Abaz, Ali Doubandé, estime avoir dompté la honte qui entourait ce métier et l'avoir professionnalisé.
Voilà, c'est une association œuvrant dans le domaine de l'assainissement, plus spécifiquement le curage des latrines non vidangeables mécaniquement. Donc au tout début, on travaillait dans le noir, se cachait pour faire le travail parce qu'on vidait des potées dans les ménages, devant les portes. Maintenant, pour faire ça, il fallait faire la nuit. Et on voulait pas se faire voir tout ça. Mais bon, avec un prix que j'ai eu, on a pu avoir deux tricycles. Donc on travaille maintenant dans la journée.
Depuis 2012, à sa création, jusqu'à nos jours, l'association Abaz est passée de 2 à 6 tricycles et joue un rôle de plus en plus crucial dans la société, comme le reconnaît Pierre Tassambido, client du jour.
En tout cas, j'ai apprécié leur travail. Grâce à eux, nous, on peut assainir. C'est ça, on les appelait pour venir faire le travail là.
Mais cela ne signifie pas pour autant que tout va bien, précise Ali Doubandé.
On partait de poter au bas-fond. Les riverains se sont plaints que l'odeur les dérangeait. Donc, il fallait trouver une solution à ça. Mais bon, nous sommes incontournables, puisque si ta latrine est remplie, le camion vidangeur ne peut pas vider. Donc, j'ai oublié d'appeler les vidangeurs manuels qui vont venir curer et puis maintenant aller jeter. En ce moment, j'ai pris juste 10 personnes. Je les ai tous équipés. Et voilà, l'association a commencé. On a fait le tour de tous les 12 arrondissements de la ville de Ouagadougou. On a pu rencontrer plus de 200 vidangeurs manuels. S'ils ont le matériel, ils peuvent travailler beaucoup et puis en tout cas sortir de la pauvreté.
Aujourd'hui, 25 personnes vaccinées et équipées font tourner un service professionnalisé, mais les obstacles sont encore nombreux, comme leurs coûts font toujours l'objet de chaudes discussions. Dans la famille d'Assamido, on les trouve élevés, témoigne Pierre, le chef de famille.
Ils sont chers en tout cas. Travailler comme ça là, pas moins de 50 000 francs qu'on nous fait. On avait déjà fait 15 000 francs. Bon, comme il y a beaucoup de saleté dedans, c'est ça, on dit qu'on ne peut pas.
Avec des coûts moyens de 35 000 francs CFA par curage pour des latrines régulières, c'est surtout la charge de travail supplémentaire exigeant beaucoup plus que de nature qui élève les coûts, souligne Ali Doubandé.
Tu arrives, tu essaies de connaître la profondeur de la fosse avant de discuter le prix. Il y a la pauvreté aussi qui est sévie. On sait qu'il y a des ménages aussi, vraiment ça ne va pas. Même si on cherche l'argent, il y a le côté social aussi qui est là.
En plus de beaucoup faire dans le prix social, au vu du pouvoir d'achat très faible de la majorité des Burkinabés, Ali Doubandé et ses hommes se disent très fiers de participer à la protection de l'environnement et surtout à l'assainissement de la ville de Ouagadougou. Ils n'attendent plus qu'un soutien des autorités municipales ou de mécènes afin d'améliorer leur travail. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Et c'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Sims Loumami, pardon, présentation Morgane Guiriec, ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. À bientôt.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM Radio Wenpanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.